Alors qu'il s'apprête à fêter ses 32 ans dans quelques jours seulement, il est déjà en 2 films, il est devenu l'un des cinéastes les plus en vue d'Hollywood. Comme vous le savez, il a fait un carton plein à la dernière cérémonie des Golden Globes. 7 nominations, 7 statuettes, et pas des moindres, puisque c'est meilleur film musical ou comédie, meilleur réalisateur, meilleure actrice, meilleur acteur, meilleure bande originale, meilleure chanson, voilà. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir très chaleureusement Damien Chazelle.
Merci. Merci.
Damien, bonjour et merci beaucoup d'être là. Vous parlez français puisque votre papa est français.
Voilà, c'est ça.
Et que vous avez passé quelques temps en France quand vous étiez adolescent.
Oui.
Donc ça va nous faciliter la tâche. le film est en train de devenir le phénomène de l'année. On l'a vu au Golden Globe. À quel moment vous avez senti que le film dépassait tout ce que vous aviez pu espérer ?
Moi, je ne suis pas sûr si on sent quelque chose comme ça. jamais, mais... bon, en fait, ça nous a pris 6 ans pour faire le film. Et c'est-à-dire que pendant 6 ans, on entendait le mot « non » beaucoup de fois. Et ça aussi.
Ça allait à du direct.
C'est le téléphone, peut-être. Je vais mal. Ok. Mais c'était un projet très personnel pour moi et c'était un projet de rêve. Je savais pas si on aura l'occasion de le faire vraiment. Mais on travaillait là-dessus pour des années et des années. Et dès qu'on a eu l'occasion de le monter, de le tourner, de le monter, là, c'était ça le rêve, c'était ça qui était surréel, c'était de pouvoir faire le film. Donc maintenant, tout ce qui arrive après le film soit fini, ça c'est même plus surréel, mais je reste quand même vraiment... Je peux seulement dire merci, quoi, parce que je sais que c'était pas évident, c'était pas un film évident.
Non. Ça a commencé au Festival de Venise où Emma Stone a eu le prix d'interprétation.
Oui.
Après à Toronto, la rumeur a commencé à se répandre que c'était l'événement de l'année. Qu'est-ce qui vous a le plus touché dans les premières réactions que vous avez eues? Que ce soit à Venise, à Toronto, aux États-Unis avec la première sortie, les journalistes français que vous avez rencontrés, qu'est-ce qui vous a le plus surpris et le plus touché surtout ?
Je ne suis pas sûr. Ce que je me souviens vraiment, c'est j'avais vraiment beaucoup de peur avant Venise. Dès qu'on a fini le film, on a fini le film il y a quelques semaines avant Venise. Donc il y a eu quelques semaines là. Et chaque nuit, j'avais des crises d'angoisse parce que je savais qu'on allait faire l'ouverture de Venise. Donc c'était une grande séance avec beaucoup de promos et tout ça. Et donc. Moi, je savais que moi j'aimais bien le film, mais vraiment on savait pas si le public, les critiques allaient répondre. C'était vraiment un grand moment pour moi le premier jour à Venise où on a montré le film d'abord aux critiques et puis au public le soir. Et donc ça s'est bien passé et là je me sentais léger quoi. C'était toute l'angoisse des pas seulement des semaines avant mais des mois et des mois avant tout ça était disparu dans un moment comme ça et donc ça c'était j'étais un peu ému parce que je savais pas si les gens allaient l'aimer bien.
On va faire un petit flashback. À quel moment vous avez senti que votre vie, ça allait être le cinéma et que vous alliez être réalisateur de films ?
quand j'étais très petit, j'ai pas vraiment de souvenir de vouloir faire quelque chose d'autre. Quand j'étais très petit, d'abord, j'ai dessiné beaucoup et j'adorais les films, les dessins animés, les films de Disney. Donc, je pense que je voulais être Walt Disney quand j'étais très petit. Et puis après ça, ça a changé un peu. J'ai commencé à regarder des films live action, pas des dessins animés. Mes héros sont devenus Spielberg ou Hitchcock, puis après ça, Truffaut et Godard. Mais c'était toujours le cinéma. Donc, c'est quel cinéma? Ça a changé. Mais c'était toujours le cinéma, c'était toujours ma passion, c'était toujours ce que je voulais faire. Voilà.
Est-ce qu'il y a des réalisateurs précis, genre Hitchcock ou Spielberg, comme vous disiez, qui vous ont vraiment donné envie ou ils ont juste conforté le désir que vous aviez de devenir réalisateur?
Ouais, je pense que c'est plutôt ça, parce que... c'est-à-dire que, comme je dis, j'ai pas vraiment un souvenir avant la passion pour le cinéma. Je pense que j'étais très jeune et il y avait des films sur la télé d'abord, et donc je regardais, j'étais obsédé. Et puis je me souviens du premier film que j'ai vu dans une salle. C'était encore un film de Disney, c'était Peter Pan. Mm-hmm. Et je me souviens très bien des grandes images sur la salle, sur le grand écran, dans le cinéma. Et ça m'a vraiment frappé. Mais j'étais déjà passionné du cinéma, même avant ça. Donc, peut-être c'est une passion qui augmentait chaque année. Mais ce qui est assez drôle avec au niveau de La La Land, c'est que les comédies musicales, j'aimais pas trop. En fait, j'ai trouvé ça un peu. J'aimais pas ce moment où les gens commencent à chanter. J'ai trouvé ça assez pénible. moi, ce que j'adorais, c'était vraiment les policiers, les polars, les thrillers, les films de Hitchcock. Vraiment, ça c'était Hitchcock vraiment était le dieu pour moi.
Pourquoi? Qu'est-ce que vous aimiez le plus dans ces films?
J'aimais bien les choses assez noires, assez macabres. Et sinon, je ne suis pas sûr. J'ai commencé à lire beaucoup sur le cinéma. Et donc, il y a eu beaucoup de bouquins sur Hitchcock, surtout le livre des interviews entre Truffaut et Hitchcock.
Truffaut, ouais, ouais.
Ça, c'était vraiment important pour moi.
Ça, vous aviez quel âge?
Je sais pas, 10 ans, 11 ans,
ah oui.
Je suis pas sûr.
Vous étiez très précoce quand même.
Je l'ai lu avant que j'ai connu...
Les films de Truffaut.
Oui, je connaissais pas Truffaut. Mmh. Truffaut, pour moi, c'était un type qui faisait l'interview.
C'est un journaliste.
Voilà, c'était un journaliste qui demandait de bonnes questions. mais j'étais déjà fasciné de Hitchcock, c'est vrai. Et en même temps, je faisais des petits home videos, des petits trucs avec le caméra de mon père, un petit camcorder. Je faisais des trucs avec mes amis ou ma sœur, comme acteur. C'était toujours des choses avec des meurtres et des... c'était toujours ma sœur qui mourait, et voilà. mais ça, c'était ça que je voulais faire. C'était des films comme ça. Mais en même temps, je jouais de la musique. J'ai commencé de jouer de la musique quand j'avais, 11 ans, 12 ans.
Vous jouiez de quel instrument?
La batterie. D'abord, le piano, mais ça ne marchait pas. Et puis, la batterie, ça marchait. J'ai fait de la batterie pendant le lycée. Mm-hmm. D'une manière assez intense et assez concentrée. Et puis les comédies musicales, ça venait un peu après, quand j'avais, je sais pas, 17, 18 ans. Et c'était vraiment, en fait, c'était les comédies musicales ou les films musicaux français, vraiment là, qui me marquaient le plus. C'était les films de Jacques Demy, Les Parapluies de Cherbourg, Les Demoiselles de Rochefort.
Vous les avez vus où? C'est votre père qui vous les a montrés? C'est au lycée?
C'est
votre curiosité à vous? Vous alliez louer des cassettes ou des DVD?
Le premier, je l'ai vu parce que ma première année à l'université, donc j'avais 18 ans, et j'ai eu un collègue là-bas, un ami, un colocataire, qui adorait les parapluies de Cherbourg, et moi je connaissais pas. Il m'a, donc c'était ça c'était très simple, c'était comme ça, c'était un ami qui disait qu'il fallait le voir. Donc je l'ai vu sur un petit, je sais pas comment dire en français, VHS.
Oui,
c'était, ouais, c'était même pas un DVD, c'était pas terrible comme
qualité.
Comme qualité, mais quand même ça m'a frappé d'une.
Pourquoi
d'une
qu'est-ce
façon,
qui vous a le plus frappé dans ce film-là? En quoi ils sont singuliers?
Je pense que avant d'avoir vu les parapluies de Cherbourg, je savais pas qu'un film musical, qu'une comédie musicale puisse faire ça, c'est-à-dire que qu'on puisse trouver des émotions si profondes et si réalistes et mélancoliques dans ce genre. Moi, je pensais que les comédies musicales, la comédie musicale, ce genre, c'était la joie et rien d'autre. Et peut-être c'est pour ça, quand j'étais petit, parce que quand même, comme j'ai dit, j'aimais bien les choses assez noires et
sombres.
Sombres. Donc c'est peut-être pour ça que, pour moi, je pensais que les comédies musicales, hein, c'est pas pour moi. Et en fait, c'était les films de Jacques Demy qui m'a changé un peu. Et puis après ça, j'ai commencé à re-regarder des films de Gene Kelly, Fred Astaire, des films comme Singing in the Rain et Top Hat et bon, tous les chefs-d'œuvre des années 30, 40, 50 à Hollywood. Et je suis devenu vraiment obsédé du genre.
Vous expliquez ça comment ?
Après les parapluies de Cherbourg, j'ai commencé à voir quelque chose que je ne voyais pas avant. J'ai vu un esprit audacieux dans le genre. C'est-à-dire que c'était presque des films... Pour moi, j'ai trouvé que c'était presque des films avant-garde.
D'avant-garde,
oui.
Formellement, dans la manière dont ils étaient faits.
Oui, parce que c'est exactement la même chose que j'aimais pas avant. C'est-à-dire le début des chansons, quoi. Le moment où on commence à chanter. Je suis devenu fasciné par ce moment dans les films et comment faire la transition, comment faire l'équilibre aussi entre la réalité et les chansons, la fantaisie et le réalisme. Je suis devenu fasciné. Je sais pas exactement pourquoi, mais je pense que c'était des choses comme ça, c'était l'émotion de Jacques Demy et c'était cet esprit audacieux dans les films de Hollywood. Parce qu'en fait, les comédies musicales, les films de Gene Kelly, les films de Hollywood, c'était des films populaires. Mmh. C'était pas des films d'avant-garde.
Bien sûr.
Mais là-dedans, on peut trouver des choses qui sont vraiment, mais parfois vraiment extrêmes d'un niveau formaliste. Et donc, en même temps, je regardais des petits courts-métrages de Maya Deren ou de Fernand Léger ou Dudley Murphy, c'est-à-dire des metteurs en scène vraiment avant-garde.
Avant-garde,
vrai avant-garde des années 20, 30, 40. En même temps que je regardais des films comme American in Paris et Singing in the Rain. On dirait normalement que ce sont des films qui n'ont rien à voir entre ces genres n'ont rien à voir entre les deux, mais là je trouvais vraiment des équivalents.
On va faire un petit saut dans le temps. Vous faites un court métrage qui s'appelle Whiplash. Je ne sais pas s'il est nourri de votre expérience, puisque vous disiez que vous avez fait de la batterie de manière très intense.
Ouais.
Est-ce que vous êtes servi d'un souvenir personnel pour l'écrire?
Oui, malheureusement. Oui.
Vous aviez un professeur.
Oui, j'ai eu un prof exactement comme ça, pas exactement, mais presque comme ça quand j'étais au lycée, et ça me donne encore des cauchemars, même si ça fait longtemps là, mais c'est vrai que c'était un moment très très important pour moi, même comme artiste. C'était pas le cinéma, c'était la musique, mais. Il y a quand même, bien sûr, des parallèles. Et aussi, ça me faisait penser aux questions comme c'est quoi l'équilibre entre la vie et l'art. Et cette idée de devenir un grand artiste, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut pour devenir un artiste? C'est quoi la formation? Là, vraiment, c'est des questions où je connais pas la réponse, vraiment.
Non, mais vous faites des films pour la trouver.
Voilà, voilà, c'est un peu ça. Et Whiplash, surtout, c'était ça.
Même La La Land, il y a quand même le rapport de l'artiste et de ses rêves, et aussi ce qu'il y a déjà dans Whiplash, qui est le rapport de soi avec les autres, enfin de soi comme artiste avec les autres. Oui. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier pour son art? On voit dans Whiplash le garçon qui dit à la jeune fille « Je suis obligé de plus te voir parce que sinon, je ne vais pas devenir le plus grand batteur du monde ».
Oui, il est un peu fou et c'était comme moi à cet âge.
Vous étiez proche de lui?
Du personnage.
Du personnage?
Oui, très, très. Mm. Oui. Et l'écriture de Whiplash, c'était presque assez facile pour moi parce que c'était vraiment c'était presque autobiographique. C'était vraiment. C'était très personnel et j'écrivais parfois des choses qui, même mot pour mot,
que vous aviez entendu. Oui. Et ça vous paraissait presque indispensable de commencer, de faire un court métrage avec quelque chose d'aussi personnel. C'était.
D'abord, j'ai écrit tout le scénario. C'est-à-dire que c'était un long métrage que je voulais faire. C'était difficile de trouver l'argent ou des producteurs. Voilà, c'était pas très commercial comme idée. Donc on a fait le court métrage pour attirer l'argent. Donc le court métrage, c'est une séquence du film qu'on a tiré. C'est la première répétition dans le film avec l'élève et le prof et avec tout l'orchestre. Donc ça fait un peu l'intro pour le monde on pensait que c'était un bon petit morceau mais surtout vraiment la raison principale pour le faire c'était de
trouver le financement.
Oui, et de montrer que je pouvais le faire parce mm-hmm. que même s'il y avait des gens qui aimaient bien le scénario, l'idée de me laisser faire moi-même comme metteur en scène, on avait beaucoup de difficultés de faire de trouver une méthode pour faire ça.
Je vous propose justement de regarder un extrait de cette scène, mais dans le long métrage et pas le court métrage.
Ah d'accord, ok. You're rushing. Here we go. Ready? Okay. 5, 6, and. Dragging just a hair. Wait for my cue. 5, 6, 7. Rushing. 5, 6, and. Dragging. 5, 6,
I suppose I just hurled a chair at your head, Neiman.
I don't know.
Sure you do.
The tempo?
Were you rushing or were you dragging?
I don't know.
Start counting.
5, 6, 7.
In four, damn it! Look at me!
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
Now, was I rushing or was I dragging?
No.
Count again.
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
Rushing or dragging?
Rushing.
So you do know the difference. If you deliberately sabotage my band, I will fuck you like a pig. Now, are you a rusher or are you a dragger? Or are you gonna be on my fucking time?
I'm gonna be on your time.
What does that say?
Quarter note equals 215.
Count me at 215.
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
Jesus
1, 2,
fucking
3.
Christ! I didn't know they allowed retards into Schaefer. Am I to understand that you cannot read tempo? Can you even fucking read music? What is that?
Eighth note?
Yes, what is that?
Dotted 16th note.
Sight read measure 101.
Bubba, 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 bubba.
What are you, in a fucking a cappella group? Play the goddamn kit! Now answer my question. Were you rushing or were you dragging? Answer!
Rushing.
Oh, my dear God.
Are you one of those single-tier people? Do I look like a double fucking rainbow to you? You must be upset. Are you upset?
No.
No, so you just don't give a shit about any of this?
I do give a shit about this.
Are you upset? Yes or fucking no? Yes, you are upset.
Yeah.
Say it.
I'm upset.
Say it so the whole band can hear you.
I'm upset.
Louder!
I'm upset.
Louder!
I'm upset!
You are a worthless, friendless, faggot-lipped little piece of shit whose mommy left daddy when she figured out he wasn't Eugene O'Neill and who is now weeping and slobbering all over my drum set like a fucking 9-year-old girl. So for the final father-fucking time, say it louder!
I'm upset!
Carl.
Vous pensez que l'humiliation peut être un moyen de, d'enseigner ?
Non, pas vraiment. Je ne suis pas vraiment d'accord avec ça. Mais c'est vrai que ça existe. Quoi, et, c'est, et même pour moi, ça existait. Et pour beaucoup de musiciens, d'acteurs voilà, que je connaissais. Donc... C'est ça la question, je pense. C'est pas s'il faut l'humiliation. Parce que je pense, ça, c'est évident. On n'a pas besoin de ça pour apprendre ou pour devenir quelque chose. Mais c'est-à-dire, c'est où la ligne quoi, entre ce qui est supportable et ce qui n'est pas au nom de l'art ou d'un but qu'on puisse dire et un but humaniste, un but positif. Donc c'était un peu cette question-là.
Ce que je trouve très, très beau et très fort quand on met en parallèle Whiplash et La La Land, c'est que dans Whiplash, on voit le prix de l'art, c'est-à-dire ce que ça coûte, le travail que ça représente. Et le résultat de La La Land, pas l'histoire, mais le résultat, le film fini, c'est comme si, justement, vous ne vouliez pas qu'on voit le travail. C'est d'une fluidité, d'une élégance magnifique, comme si tout ça était naturel et qu'il n'y avait pas eu de travail derrière.
C'est drôle parce que c'est vrai que je voulais que La La Land soit comme un morceau de musique romantique, un morceau comme des films de Jacques Demy, alors un morceau de Michel Rand, son compositeur, ou un morceau de Debussy, je sais pas, quelque chose où il y a vraiment, je sais pas, qui bouge comme l'eau, et c'est-à-dire que le film danse un peu et que le caméra danse, et donc c'est un peu ce rythme comme ça, alors que Whiplash, c'était, il fallait être dans la tête de ce batteur, cet étudiant. Donc tout est coupé comme ça et tout est vraiment très précis et hyper accentué, vraiment intense et claustrophobe. La La Land, il fallait faire le contraire, c'est vrai. Mais aussi, je sais pas, je voulais Whiplash, le sujet vraiment était le prix. Le prix à payer, le sacrifice, tout ça. Et c'est vrai, on voit ça dans La La Land un peu, mais aussi dans La La Land, je voulais quand même exprimer la joie derrière l'art aussi, parce que ça existe aussi. Donc, c'était un peu quoi, les deux côtés.
Les deux côtés, l'art. Bien sûr.
La douleur, la souffrance derrière l'art, parce que ça existe, et la joie. Qui existe aussi.
C'est d'ailleurs aussi la force de La La Land, c'est sans dévoiler pour ceux qui n'ont pas vu le film, et ils sont nombreux, c'est que c'est à la fois, ça montre l'envers du décor d'Hollywood, c'est-à-dire la cruauté des castings, cette espèce de milieu cynique, dur, où il est difficile de faire sa place, et en même temps que le rêve est possible. Et vous arrivez justement, vous parliez d'équilibre tout à l'heure, vous arrivez justement à trouver cet équilibre-là entre le monde tel qu'il existe et le monde tel qu'on voudrait qu'il soit, qui est le propre des comédies musicales, en fait.
Voilà, oui.
Et je trouve que vous arrivez vraiment, sans être... c'est comme si vous aviez réussi à unir les frères Lumière et puis Méliès de l'autre côté, mais dans le même film.
C'est gentil. Jacques Demy, je pense que quand même c'est vraiment un modèle parce que C'est ça aussi qui me frappait avec Jacques Demy, c'est que ces films, même ces films hyper stylisés, des films comme Les Demoiselles Rochefort ou Les Parapluies de Cherbourg, dans Les Parapluies de Cherbourg, chaque mot est chanté, donc ça n'a rien à voir avec la réalité, vraiment. Mais je trouve que c'est un film hyper réaliste et au niveau émotionnel, mais aussi dans l'histoire, même dans les images. Il y a des couleurs qui sont magiques, qui n'existent pas vraiment dans Les Parapluies de Cherbourg, mais il y a aussi la ville de Cherbourg. Jacques Demy et son équipe, ils ont tourné dans la vraie ville. Pas comme les comédies musicales de Hollywood qui tournaient en studio. Mais là, on sent une vraie ville. Et dans l'histoire, il y a des choses comme la guerre en Algérie et la fin. Bon, c'est pas un fin hollywoodien pour ce film. Donc, j'étais vraiment frappé par ce mélange entre. Bah pour moi, c'était un peu dans Les Parapluies de Cherbourg, Méliès d'un côté et les frères Lumière d'un autre. C'était presque un documentaire, mais avec un côté magique. Et moi, quand j'étais à l'école, quand j'étais à l'université, je prenais des cours du cinéma et les cours, c'était surtout sur le cinéma documentaire. C'était l'école. C'était plein de. Tous les profs étaient des cinéastes documentaires. Donc, on regardait des films de Frederick Wiseman et Jean Rouch des choses comme ça, Chronique d'un été et Nanook of the North de Flaherty. Voilà des films comme ça. Donc, c'était ça en fait. Je regardais ça et je faisais des films de cette façon. Mon premier long métrage, c'était un film que j'ai fait comme étudiant. Avec des amis à l'université, et c'était vraiment à peu près un documentaire musical, une comédie musicale en documentaire. Le style était plutôt cinéma vérité, c'était 16 mm pellicule, le caméra sur l'épaule, ça bouge comme ça beaucoup et c'est pas très net, pas très précis, c'est le contraire de Whiplash et on tournait le film dans les rues de Boston où j'habitais mais il y a quand même des chansons et des séquences de fantasy complètes. Donc c'était ce mélange-là que j'étais vraiment fasciné par ça et comment on peut faire ce mélange, et La La Land c'est un peu la suite.
Je vous propose de regarder l'une des plus belles ouvertures de film qu'on ait vu depuis très longtemps, qui est l'ouverture de La La Land, qui est un extrait rare puisque pour l'instant il n'a pas été diffusé, il passe pas sur Internet et tout ça. Donc c'est vraiment un privilège de l'avoir et je trouve que vous parliez d'unir et la réalité et la magie, là vous y êtes parvenu très très bien quand même, puisqu'on est sur une autoroute de Los Angeles. Voilà, en voyant l'ouverture de La La Land, ça vous mettra en appétit pour aller voir le film le 25. Cool.
Without a nickel to my name, hopped a bus Here I came, I could be brave or just insane. We'll have to see.
In the canyons that'll never fade away, the ballads in the barrooms left by those who came before. They say we gotta want it more, so I bang on every door.
And even when the answer's no, my money is running low, the dusty mic and me on the floor are all in need.
And someday as I sing the song, I hope that kid will come along.
That'll be the thing to push him on.
I'm reaching for the heights and chasing all the lights that shine.
It was pure insanity. Is insanity? Ah! Lunacy. It's pure lunacy.
On n'a pas pu résister d'aller jusqu'à la première rencontre, ouais, quand même.
Ah, pas de souci, merci,
qu'on
c'est gentil.
Qu'on voit au moins les deux héros du film.
Bah oui, oui,
voilà.
C'est...
Et leur première rencontre qui ne laisse pas augurer de la suite, quand même. Mais une scène comme ça, ça se met en scène comment? Ça se prépare comment? Ça...
c'est... en parlant de... ce mélange réaliste fantasy, c'était important pour moi de le faire pour de le faire du vrai, quoi,
pour faire de ouais, pour ouais, de vrai,
de,
oui,
ouais, de trouver une vraie autoroute et de faire avec les vraies voitures et tout ça, et pas pas de le faire avec des effets spéciaux, avec les ordinateurs et CG et tout ça. Donc on a cherché pour pas mal de temps pour trouver un espace pour le faire. Et là, c'est un... je sais pas comment dire, overpass sur l'autoroute.
Une sorte de bretelle d'autoroute.
Oui, hein. Voilà. Donc c'était seulement cette partie-là qui était qu'on a fermée pour nous, et la ville nous a laissé fermer cette partie pour deux jours. C'était un week-end, alors dimanche, samedi et dimanche. Donc on a fait des répétitions, beaucoup de répétitions, mais normalement dans des cours de parking ou dans le studio et avec les danseurs. Mais il fallait vraiment adapter un peu sur l'autoroute, la vraie autoroute, parce que il y a le soleil qui brûle et il faisait très très chaud. C'était la canicule, quoi. C'était le jour le plus chaud de toute l'année. Heureusement, c'était vraiment génial. Et on n'avait que deux jours, donc il fallait le faire. Et je voulais que ce soit comme si c'était un plan continu, un seul plan. Parce que je savais que c'était tellement absurde comme spectacle, donc je voulais faire tout ce que je pouvais pour donner cette sensation de que c'était du vrai, que même le caméra, comme si le caméra était une personne, quelqu'un qui était dans l'autoroute, qui était coincé dans une voiture et qui s'échappe et puis qui regarde comme ça, c'est-à-dire
qui danse à son tour même.
Oui, et qui commence à danser. Donc c'est-à-dire que au début il y a quand même des morceaux de chorégraphie qui sont au dehors de l'écran. J'aimais bien cette idée que ce n'était pas seulement pour l'écran. C'était quelque chose qui se passait pour du vrai, et nous, on le découvre à travers la caméra. Donc pour faire ça, j'avais un chef-op vraiment merveilleux, Lina Sangren, et la chorégraphe Mandy Moore. Donc c'était moi et eux, vraiment. On parlait, on discutait pour des mois et des mois. On faisait, comme j'ai dit, des répétitions, souvent avec moi je prenais le iPhone et je courais comme un malade autour des voitures pour montrer ce que je voulais. Et le final, je pense que c'est trois. Avant qu'on trouve Ryan et Emma, les deux personnages, les deux acteurs principaux, c'est trois plans, et donc il y a deux coupages cachés.
Oui, qu'on voit pas. Oui.
Donc je pense qu'on a fait deux le samedi, puis. Le final, le dimanche, et puis les petits morceaux avec Ryan et Emma le dimanche.
Et ça, c'est un défi en tant que metteur en scène qui vous excite ? Ça fait partie de votre plaisir d'être metteur en scène ?
Oui, c'est le plaisir et la souffrance. Parce que c'est... j'avais beaucoup... on ne savait pas si ça allait marcher. Et en fait, une semaine, ou peut-être que c'était deux semaines avant le tournage, on a pu aller sur l'autoroute, sur scène, avec les voitures et le caméra pour quelques heures, pour moitié de la journée, et ils l'ont fermé pour quelques heures. Donc juste pour faire un petit dress rehearsal, une répétition sur scène. Et ça, c'était presque un désastre. Rien ne marchait, le caméra ne bougeait pas comme je le voulais, les danseurs, c'était pas ce que je pensais que ça allait être. Tout ce qui était bien sur le iPhone n'était pas bien sur le grand écran et sur CinemaScope. Donc rien ne marchait. Mais c'était très pratique, parce qu'on a appris beaucoup cette journée-là. On a appris ce qu'il fallait faire et ce qu'il fallait changer. Quand on est revenu, on savait un peu plus ce qu'il fallait. Comme j'ai dit, on était tous nerveux, on était tous un peu... Il y avait pas mal d'angoisse sur scène, mais aussi il y avait une joie, quoi, avec les danseurs, parce que c'est des gens qui... normalement, on n'a pas l'occasion de faire quelque chose comme ça dans un film, surtout à Hollywood. Il y a pas, en fait, il n'y a pas beaucoup de danse dans des films de Hollywood, et surtout la danse qui est vraiment au centre de l'histoire du film. Ça, c'est aujourd'hui, c'est assez rare. Mmh. Et c'était pas rare il y a 50 ans, mmh. Mais maintenant c'est assez rare. Alors il y avait un sentiment très positif sur scène, et ça a aidé beaucoup.
Un mot quand même sur les acteurs, sur Ryan Gosling et Emma Stone. C'est pas eux qui étaient prévus au départ, comme quoi, comme le dit Fellini, les films se font comme ils doivent se faire. Si les acteurs prévus ne le font pas, c'est que le film ne voulait pas qu'il se fasse avec eux. En quoi vous diriez que Ryan Gosling et Emma Stone étaient finalement les comédiens idéaux pour ces personnages-là?
Oui, j'ai commencé à écrire le scénario de La La Land il y a... il y a 6 ans, de fin 2010, début 2011. Et j'imaginais, même à ce moment-là, Ryan Gosling et Emma Stone, mais je pensais que c'était des rêves, mais c'était pas réaliste. Je pensais pas que ça allait marcher. C'était surtout des modèles, quoi. C'était dire, bon, on va trouver quelqu'un comme Ryan Gosling, quelqu'un comme Emma Stone. Et puis des années passées, et on avait de l'argent, puis on n'en avait pas. On avait un acteur, puis non. Une actrice, puis non. Ça changeait chaque année. Il y avait des combinaisons différentes. Et c'était, en fait, c'était après Whiplash qu'on a trouvé l'argent, finalement, vraiment le budget qu'il fallait pour le film. Et ensuite que j'ai rencontré Emma et Ryan séparément. En fait, j'ai rencontré Ryan d'abord pas au sujet de La La Land. On parlait d'un autre projet. Mais lui, il a commencé de parler. Il est grand fan de Busby Berkeley et Gene Kelly et des comédies musicales des années 30 et 40. Donc on commençait à parler de ça. Donc c'est petit à petit, je me suis rendu compte, bon, peut-être c'est une possibilité. Et puis après, ça a marché, mais c'était un peu comme ça, c'était la chance, quoi. C'est-à-dire que je me sentais très, très, très... une expression kismet, je sais pas si ça marche en français, mais c'est-à-dire que c'était comme l'univers, c'était comme tout allait marcher pour faire que ce soit Ryan et Emma. Je suis d'accord, je pense qu'il fallait que ce soit eux.
Mm-hmm. Il a appris le piano, Ryan Gosling, oui, parce qu'il est très étonnant dans le film quand même.
Oui, il jouait un peu de piano, mais pas avant, mais pas beaucoup, pas grand chose. Et en fait, il était assez nul. Et il a appris comme un malade. Il a pris un prof excellent à Los Angeles. Il a commencé chaque jour pour quelques heures, chaque jour pour 3-4 mois avant le tournage. Et puis pendant le tournage, il apprenait toujours, il pratiquait. C'était étonnant pour moi aussi, parce que on n'avait même pas besoin d'un double sur scène. Il y a pas de double, il y a pas de coupage ou de on cache rien. C'est toujours Ryan qui joue sur l'image.
Et quelle est la qualité principale d'Emma Stone pour vous? On vous sent fasciné par son visage en même temps.
Oui, c'est vrai, c'est son visage, c'est ses yeux. Elle a des grands yeux comme ça, et ça me rappelle, pour moi, je ne suis pas des vedettes, des actrices des années muets, du cinéma muet. Il y a quelque chose de classique, mais aussi très moderne, très avec moderne, Emma Stone. Ouais. Il y a une lumière avec elle. On sent que... Le caméra l'adore, et ça c'est important, surtout pour une histoire d'amour. Et donc il fallait que ce soit le cas pour elle et pour le gars, pour Ryan, que c'était un film d'amour. Et donc il fallait pas seulement l'amour entre les deux, mais l'amour entre la caméra et eux, et la ville et eux, et la musique et eux. Et c'est je sais pas, c'est peut-être ça un movie star, un star vraiment. C'est parce que parfois c'est différent d'un acteur. Il y a des grands acteurs qui sont pas des stars, et il y a des grands stars qui sont pas des grands acteurs. Et là, j'ai eu de la chance vraiment parce que Ryan et Emma, je trouve, ils sont vraiment les deux.
Les deux,
bien sûr. Ils peuvent être très subtils, très sophistiqués avec leurs choix, très malins, ils sont très intelligents. Donc, ils avaient des idées excellentes pour les personnages, pour l'histoire. Mais ils sont des stars aussi, et des stars de la tradition de Hollywood. Et ça, bien sûr, c'était important pour le film.
Et en même temps, très contemporain, justement.
Voilà, voilà. Voilà.
Alors, on me fait signe qu'il faut arrêter, quasiment. Ça passe trop vite, hein. On aurait pu passer 3 heures en votre compagnie. Juste une dernière question avant de se quitter. Il y a longtemps, le journal français Libération avait posé la même question à tous les cinéastes du monde entier, qui était une question très simple. C'était: pourquoi filmez-vous? Si je vous la posais aujourd'hui, vous répondriez quoi?
Pour moi, c'est parce que je sais pas quoi d'autre faire. Et j'ai eu ce problème depuis mon enfance, quoi. C'est vraiment. C'est le cinéma ou rien pour moi. C'est vraiment, ça reste la grande passion de ma vie.
Apparemment, le film prochain sera ni sur la musique ni sur le cinéma.
En fait, c'est ce projet dont j'ai parlé avec Ryan la première fois que je l'ai rencontré. C'est un projet sur Neil Armstrong et l'atterrissage sur la Lune. Donc, ouais, c'est assez différent. Mais on va voir.
Bien. En tout cas, bravo pour La La Land. Merci d'être venu.
Merci.
Et on aurait pu passer 3 heures ensemble. Mais...
Merci.
Et d'ailleurs, vous allez être obligé de partir très vite. Donc, désolé pour le public qui ne pourra pas faire signer des autographes ni des... parce que le timing est très serré. Merci encore. C'était un plaisir.
Merci beaucoup.